La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, Pâques, le mystère, Pâques, la joie. Nous rentrons dans Pâques et dans l'octave de Pâques avec le journal de Raïssa, puisque nous avons commencé la Semaine Sainte avec elle. Et voilà ce qu'elle écrit en 1924. Sans doute, si nous sommes au Christ, nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde, et que si la divine vérité voulait triompher dans le temps, cela lui serait bien facile. Je prierai mon Père, et il m'enverrait plus de 12 légions d'anges. On sait cela, et pourtant on désire ardemment le triomphe du Christ, dès maintenant, en tout et partout. Et ce désir rend le cœur impatient, exigeant et douloureux. Dieu est lumière et amour, et les deux sont un en lui. Et toute la création est lumière, par l'intelligibilité, amour par la tendance. L'intelligibilité des créatures devient lumière en acte, dès que se pose devant elle le miroir des créatures immatérielles qui ont les intelligences humaines ou angéliques. À ce point de vue, on peut admettre un certain monisme. La chose connue est la chose elle-même et non pas la chose plus une forme intelligible surajoutée. Le rayonnement intelligible des êtres est leur être intentionnel, participation lointaine et si imparfaite soit-elle de l'idée créatrice de Dieu. Il y a une partie spirituelle même dans les corps bruts et c'est la forme qui les tient dans l'être. Tel est le véritable idéalisme. La part d'immatériel, plus ou moins grande, fait la hiérarchie des êtres. L'infinie substance de Dieu est dite ou proférée tout entière par le Verbe. La substance des choses est dite aussi par le Verbe des créatures immatérielles ou douées d'une âme immatérielle. De même que Dieu donne l'être aux choses, sans que cet être se confonde avec l'être de Dieu, de même, Dieu leur donne l'activité, à tous ses degrés, depuis l'énergie physique jusqu'à l'activité volontaire et libre de l'homme et des anges, sans que cette activité créée se confonde avec l'activité divine. J'attends tout de Dieu, car de moi à lui, il semble que tous les ponts soient coupés, mais non de lui à moi. Je ne puis pas même diriger ma pensée en général dans l'horizon. Direction et lumière de Dieu seul. Alors l'âme perçoit subtilement la transcendance divine absolue, infusion de la lumière divine, lumière incompréhensible et indicible, mais qui est celle même que l'âme désire, à quoi elle aspire, dont elle a soif, lumière vivifiante et insensible au sommet de l'esprit. En cette horizon, l'âme ressent un dégoût radical pour ses mouvements propres, ses préférences, ses volontés, ses sensibilités, ses compréhensions. Elle est toute ouverte vers Dieu et aspire la lumière incompréhensible qui vient de lui. Elle se repose dans la volonté inconnue de Dieu et vit d'un amour tout spirituel. Tout cela est ténèbres rassurantes, jouissance insensible, communion incompréhensible. L'âme se repose avec plus de sécurité dans ces ténèbres qu'elle ne le faisait dans les précédentes illuminations, portée par quelque créature, image, symbole ou sentiment. Il lui semble ne se nourrir que de la seule volonté de Dieu. 20 avril 1924, dimanche de Pâques. Communié à l'église. La musique desserre un peu les liens de l'esprit et du corps, et l'âme entrevoit l'exaltant, l'éternel amour. Elle s'avance au rythme nuptial du cortège angélique. Elle pressent les délices des noces spirituelles. L'amour, c'est bien l'amour à quoi elle est prédestinée dès l'origine du monde. L'amour. L'amour qui est communication dans les délices et l'allégresse, avec plénitude de joie dans l'immuable possession. L'amour qui est don réciproque et total, aisé, joyeux, rejaillissant éternellement en vie éternelle. L'essence de l'amour et dans la communication de soi, avec plénitude d'allégresse et de délice dans la possession du bien-aimé. L'essence de l'amitié est dans la bienveillance allant jusqu'au sacrifice de soi-même à l'ami. Dieu nous aime d'amitié, en subvenant à toutes nos nécessités et en mourant pour nous sur la croix. Dieu nous aime d'amour en nous faisant participer à sa nature par la grâce, en faisant de l'âme sanctifiée sa demeure, en se faisant connaître à nous par la révélation surnaturelle. Tout cela témoigne de son amour. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ? Luc, chapitre 24. Et que nous demande-t-il à nous-mêmes ? Notre cœur. L'amitié se juge suffisamment aux actes. Si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. L'amour tout spirituel, le Saint-Esprit, peut seul le faire sentir à l'âme. Comment prouverai-je mon amitié à Dieu ? En pratiquant ses commandements. Comment lui prouverai-je mon amour ? En me donnant à lui, du fond de mon cœur, de telle manière qu'aucun autre amour n'y habite jamais. En ce sens, Dieu est jaloux. Il n'est pas jaloux de nos amitiés, au contraire, il les favorise. Mais il est jaloux de ce don particulier du cœur qui est l'amour, qui est total et exclusif de sa nature. D'où le prix de la virginité corporelle comme signe de l'intégrité du cœur. Être aimé, quel mot pour un cœur vivant ! De la notion de gloire dans l'amour. Il est glorieux pour une âme vivante de conquérir un vivant. Cette conquête est le triomphe de l'amour. Notre gloire au ciel sera d'avoir conquis Dieu. Et c'est sa gloire à lui, gloire accidentelle, d'avoir conquis une âme. L'amour, à cause de cela, demande non seulement l'union des volontés, mais encore la distinction des personnes, trinité des personnes divines.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Carnet 1924 de Raissa Maritain. Il se fait dans mon âme un dégagement. Elle devient indifférente au jugement des autres. Elle garde jalousement son trésor. Je crois que je dois entrer courageusement dans cette voie de solitude qui est amère à la nature, mais très salutaire. Vivre avec Dieu seul. Ne voir que lui en toute chose, compter pour rien ce qui vient des hommes. Car tout homme est menteur, dit le psaume. même quand il est très véridique, car il ment sans le vouloir lorsqu'il déçoit celui qui a mis en lui quelque espérance. Il ment lorsqu'il donne un conseil tout humain à qui lui demande une lumière divine. Il ment lorsque la prudence humaine le conduit dans ses conseils. Dieu seul ne ment pas. Il faut que l'âme, dans le silence de l'oraison, se conforme de plus en plus à cette véracité divine, à cette intégrité sans dol. Elle est en assurance devant lui. Si elle est en faute, elle sait qu'il désire la corriger et lui pardonner. Si elle demande la divine grâce, la charité, l'humilité, elle sait que son Père céleste ne lui donnera pas des pierres en guise de pain. Oh, tout est là, vivre à découvert devant Dieu. Le supplier sans cesse de purifier notre cœur, faire tous nos efforts pour ne rien nous laisser passer, bien ouvrir nos yeux sur nos défauts, sur nos péchés, en faire une confession très stricte. Qu'il est bon de vivre dans le seul désir de plaire à Dieu. À l'égard du prochain, une seule chose est bonne, l'amour de charité. Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi. Permettez-moi de vivre en votre présence, l'âme droite, toute dressée vers vous, l'âme sincère, aspirant votre douce véracité, l'âme très humble, attendant de vous seul tout son bien, mais l'âme très confiante aussi dans la bonté de son Père et recevant avec simplicité les manifestations de votre amour. Ô mon Dieu, comment pourrais-je être indifférente à cet amour? Comment pourrais-je me désintéresser de savoir si j'ai avancé même d'un pas vers vous ou si j'ai reculé? Sans doute, la certitude absolue est impossible en ces choses, puisque nul ne sait s'il est digne d'amour ou de colère. Mais vous ne pouvez être offensé par l'attention avec laquelle l'âme scrute et suppute vos dispositions à son égard, selon les manifestations plus ou moins claires de votre action en elle. Vous ne pouvez lui reprocher d'espérer en votre miséricorde et de croire à votre amour pour nous. Certes, nous pouvons lourdement nous tromper, mais vous n'imputerez pas cela à notre orgueil. Vous savez que telle peut être la conséquence de notre humaine faiblesse et de l'obscurité même de la foi. Je lis la vie de Saint Jérôme. On a l'impression qu'en ces premiers siècles du christianisme, on croyait plus facilement à la profusion des grâces divines. On est devenu si timide depuis, toujours sur la réserve, au point qu'on pourrait se demander si Dieu continue encore à agir dans les âmes. On exagère peut-être dans cette voie de la prudence, peut-être craint-on de compromettre les saints canonisés en reconnaissant l'action miséricordieuse et généreuse de Dieu dans les âmes imparfaites. Mais une grâce qui nous aide à vivre en portant notre pensée sur les choses divines ne suffit pas à faire de nous de grands saints. Autant il faut être sobre de canonisation, ne pas distribuer des brevets de sainteté, autant il faut être enclin à croire aux multiples manifestations de la vie de la grâce. Il faut bien qu'elle produise quelques effets visibles malgré son essence invisible. Autrement, cela ne ressemblerait pas à la conduite générale de Dieu parmi nous. Le Verbe s'est fait chair. Notre intelligence est tributaire des images, notre volonté est mue par la raison et par les passions. De même, Dieu se fait connaître à nous, en nous, autour de nous, par certains effets visibles, sensibles, qui embellissent notre vie et la rendent supportable. La charité croit tout. Peut-être, s'il y avait plus de charité dans notre cœur, serions-nous aussi plus enclins à croire à la vie de la charité dans le cœur des autres. Peut-être, ne croyons-nous pas assez effectivement, pas assez simplement à l'amour de Dieu pour nous, ni aux profusions de sa miséricorde, ni à la richesse de ses trésors, ni à l'humilité de son amour. Nous ne croyons pas assez à l'amour, nous sommes trop prudents, de cette prudence qui fait commettre les pires imprudences, trop resserrés, trop avares. Ah, si Dieu était à notre image, il n'aurait pas suscité du néant les créatures pour les aimer et les faire resplendir d'un reflet de sa gloire. En vérité, je suis la première étonnée de tant souffrir lorsque je souffre et de souffrir, pourtant si rarement. Une matinée, une demi-heure d'oraison, que Dieu favorise, balaie toute cette douleur que je retrouve cependant chaque fois qu'elle reparaît avec un visage si familier et si profondément ancré dans mon âme qu'il me semble qu'elle doit être la compagne invisible de tous les instants de ma vie. En vérité, j'aurai toujours besoin de la consolation de Dieu pour vivre, car je n'appelle pas vivre souffrir comme j'ai souffert ces jours-ci. Cela s'appellerait plutôt errer au seuil de la mort, expérimenter le néant, mesurer l'abîme de notre solitude. Mais le Père est là. Pour terminer, je rends la parole à Jacques et vous dirai à la fin d'où est extrait ce magnifique texte. La contemplation des saints ne procède pas de l'esprit de l'homme, elle procède de la grâce infuse. Je dis que la contemplation est bien notre fruit parfait, mais selon que nous sommes nés de l'eau et de l'esprit, œuvre surnaturelle par essence, qui émane certes de notre fond substantiel et de nos pouvoirs naturels d'activité, mais en tant que notre substance et notre activité même passive devant le Dieu Tout-Puissant sont par lui et par les dons qu'il greffe en elle, surélevés à l'égard d'un objet divin absolument inaccessible comme tel aux seules énergies de la nature. Œuvre supérieurement personnelle et libre et active, vie qui jaillit pour l'éternité, mais qui est pour nous comme un non-agir et une mort, parce que surnaturelle, non pas seulement de par son objet, mais aussi de par son mode même de procéder. Elle émane de notre esprit mu par Dieu seul et relève de cette grâce opérante où toute l'initiative est à Dieu. Et parce que la foi est la racine et le fondement de toute la vie surnaturelle. Une telle œuvre n'est pas concevable sans la foi, en dehors de laquelle il n'est pas de moyen prochain et proportionné de la contemplation. Enfin, la contemplation des saints n'est pas seulement pour le divin amour, elle est aussi par lui. Elle ne suppose pas seulement la vertu théologale de foi, mais aussi la vertu théologale de charité et les dons infus d'intelligence et de sagesse qui n'existent pas dans l'âme sans la charité. Ce même Dieu, atteint par la foi dans l'obscurité et comme à distance, puisque pour l'intelligence il y a distance quand il n'y a pas vision, l'amour comme tel l'atteint immédiatement en lui-même, nous unissant de cœur à cela même qui est caché dans la foi. Et ce sont les choses divines, ainsi inviscérées en nous par la charité, c'est Dieu devenu nôtre par la charité, que la sagesse mystique, sous une motion et une régulation actuelle de l'Esprit-Saint, expérimente par et dans l'amour, comme se donnant à nous, en nous, et connaît affectivement en vertu d'une incompréhensible union, dans une nuit supérieure à toute connaissance distincte, à toute image et à toute idée, comme transcendante à l'infini, tout ce que toutes les créatures en pourront jamais penser. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu sauveur d'Israël. Elle atteint Dieu comme Dieu caché, comme Dieu sauveur, et d'autant plus sauveur qu'il est plus caché, cette sagesse secrète qui purifie l'âme en secret. Tout en restant contrôlable par la théologie, tout en dépendant comme de ses conditions et de ses bases en terre humaine, des multiples notions et signes conceptuels où la divine vérité se manifeste à notre intelligence, sans rien abandonner des dogmes révélés, tout au contraire, connaissant mieux que par les concepts, cela même dont les formules conceptuelles du dogme donnent communication à l'intelligence humaine, comment ne dépasserait-elle pas toute notion distincte et tout signe exprimable pour adhérer ainsi, dans l'expérience de l'amour, à la réalité même qui est l'objet premier de la foi. Nous voilà aux antipodes de Plotin. Il ne s'agit pas ici de s'élever intellectuellement au-delà de l'intelligible, de monter par la métaphysique et son échelle dialectique savamment réglée jusqu'à l'abolition encore naturelle de l'intellection naturelle dans un surintelligible ou s'extasier angéliquement. Il s'agit de s'élever amoureusement au-delà du créé, de renoncer à soi-même et à tout pour être emporté par la charité, dans la nuit translumineuse de la foi, sous l'opération divine, jusqu'à une souveraine connaissance surnaturelle, du surnaturel illimité, où nous transformer en Dieu par l'amour. Car en définitive, nous n'avons été créés que pour cet amour. Non, la métaphysique n'est pas la porte de la contemplation mystique. Cette porte est l'humanité du Christ, par qui, grâce et vérité, nous ont été donnés. Je suis la porte, a-t-il dit de lui-même. Si par moi quelqu'un entre, il sera sauvé, et il passera dedans, et il passera dehors, et il trouvera des pâturages. Entrée par lui, l'âme monte et pénètre dans l'obscure et nue contemplation de la divinité pure, et elle redescend au dehors dans la contemplation de la sainte humanité. Et ici, comme là, elle trouve des pâturages et se nourrit de son Dieu. Vous l'avez peut-être connu. Il s'agit de distinguer pour unir, ou les degrés du savoir. C'est le premier chapitre qui s'intitule « Grandeur et misère de la métaphysique ». Et pour terminer, je reviens à la fin du livre, à la toute fin, dans le dernier chapitre qui s'intitule « Todo y nada, rien ». En référence à Saint Jean de la Croix, chapitre dans lequel Jacques parle du mariage mystique. Et voilà ce qu'il dit. Parvenu au degré le plus élevé de l'union divine, l'âme ne peut rien faire de meilleur en soi, et à moins d'obligations positives, de plus utile et de plus fécond que de contempler et d'aimer Dieu dans la solitude. Aussi longtemps que l'âme n'a pas atteint l'état d'union dont nous parlons, il est bon qu'elle s'exerce à l'amour, aussi bien dans la vie active que dans la contemplation. Mais une fois qu'elle y est établie, il ne lui convient plus de s'occuper à d'autres œuvres ou à des exercices extérieurs qui puissent faire le moins du monde obstacle à sa vie d'amour en Dieu. Et je n'en excepte même pas les œuvres qui intéressent beaucoup le service de Dieu. Car un peu de ce pur amour est plus précieux devant lui et devant l'âme, et plus profitable à l'Église, bien qu'en apparence il ne fasse rien, que toutes les autres œuvres réunies. Voilà ce qui explique la conduite de Marie-Madeleine. En prêchant le Christ, elle faisait beaucoup de bien, et en continuant cette vie active, elle en aurait fait plus encore. Mais pour le grand désir où elle était de plaire à son époux et de se rendre utile à l'Église, elle se cacha, pendant 30 ans, dans le désert, afin de se livrer en toute vérité à cet amour. Elle était convaincue qu'une telle vie produirait de toute façon des fruits plus abondants, car rien n'importe davantage à l'Église et ne lui est plus profitable qu'un peu d'un tel amour. En définitive, nous n'avons été créés que pour cet amour.